Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour...
Culture prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture prohibée. Culture prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Ma vie s'éteint. La vue se brouille. Il ne reste plus que le souvenir. Je me souviens d'un temps où régnait le chaos. Un temps de rêves brisés, de terres dévastées. Mais par-dessus tout, je me souviens du guerrier de la route. L'homme que nous appelions Max.
Au sommaire, aujourd'hui, une émission consacrée aux dernières sorties bouquins qui nous ont enchantés. Alors, ce seront des sorties bouquins très centrées autour du cinéma. On va démarrer par aborder le dictionnaire du cinéma japonais en 113 cinéastes, l'âge d'or 1935-1975, paru chez Carlotta Film, un dictionnaire réalisé sous la direction de Pascal Alex Vincent et préfacé par Kiyoshi Kurosawa. Vous pourrez d'ailleurs écouter quelques échanges, quelques mots de Pascal Alex Vincent. Nous aborderons également Steven Soderbergh, volume 2, Les années numériques de Christophe Chabert et Frédéric Mercier, paru chez Marest Éditeur. Au programme également, les deux derniers opus parus dans la collection Compact Horror aux éditions Faute de Frappe, deux nouvelles novélisations, Vampire, vous avez dit Vampire, de John Skip et Craig Spector, ainsi que Basket Case d'Armando Munoz, alias d'ailleurs Frère de Sang, hein, en version française. Et puis nous terminerons cette émission par une rencontre avec Melvin Z, autour de son livre événement Mad Max 2, les guerriers de la route, un énorme pavé paru chez Rififi, édition consacrée, vous l'avez deviné, à Mad Max 2, bien évidemment. L'équipe de Culture Prohibée remercie Séverine Danflou, Lucie Mottier, Steve Bellentani, Marc Falvo et Pierre-Julien Marest pour leur aide sur cette émission. Débutons par cette nouvelle version du dictionnaire du cinéma japonais. En 113 cinéastes, 1935-1975, sorti donc chez Carlotta Film. Ce dictionnaire est une version revue et augmentée de la précédente édition avec 12 cinéastes supplémentaires. Le top 100 de la revue Kinema Jumpo. Alors Kinema Jumpo, c'est pas n'importe quoi, c'est une revue de cinéma japonaise qui paraît depuis juillet 1919. C'est vous dire le monument qu'est cette revue. Et puis il y a également deux nouveaux cahiers de photographie qui sont inclus dans l'ouvrage. Alors les contributeurs au livre, qui est vraiment un ouvrage de référence, hein, sont nombreux. On ne peut pas tous les citer, mais leur plume brillante va vous enchanter, j'en suis sûr. Quant à vous, auditrices et auditeurs de Culture Prohibée, vous en connaissez quelques-uns, déjà venus à ce micro, comme les passionnés passionnants que sont Stéphane Dumenildo et Julien Cévéon. Alors l'homme qui chapeaute ce dictionnaire, Pascal Alex Vincent, vous le connaissez aussi très bien, puisque lors d'une soirée autour du Vagabond de Tokyo que nous avions co-organisé avec la salle Saint-Gobain et l'espace culturel de Tourotte, il était venu à la rencontre du public. Il était également venu à ce micro quelques fois. La dernière fois, en 2022 pour présenter son documentaire Satoshi Kon, l'illusionniste, également disponible chez Carlotta Film. Alors je vous propose de suite de découvrir comment Pascal Alex Vincent a découvert le cinéma japonais.
Mais il se trouve que moi j'ai découvert le cinéma japonais à l'université à Paris il y a une vingtaine d'années, et puis à la suite de ça j'ai intégré une société dont la vocation était de distribuer le cinéma japonais en France, ce qui m'a permis de me rapprocher de ce cinéma-là, de le découvrir notamment au Japon. Et puis c'est qu'à partir du moment où vous ouvrez le coffre au trésor, quand il y en a plus, il y en a encore, hein. C'est-à-dire c'est assez incroyable, c'est une cinématographie d'une densité, d'une qualité inépuisable, et donc c'est pas très difficile d'y prendre goût.
Pascal Alex Vincent, qui donc dirige cette édition augmentée, qu'il justifie dans son avant-propos par désormais un accès plus important au travail de nombreux cinéastes nippons. D'ailleurs, lors de la sortie du premier volume, il envisageait déjà cette démocratisation du cinématographe venu du pays du soleil levant.
Tout reste à faire sur le cinéma japonais. Il y a déjà eu beaucoup de choses, bien sûr, hein. Il y a quand même pas mal d'ouvrages vraiment bien déjà édités par d'autres, mais beaucoup de choses en tout cas restent à faire. Et on ne peut que s'en réjouir, puisque on va voir de toute façon de plus en plus de films japonais. C'est le cas, hein, si vous regardez à l'année combien de rééditions japonaises sortent en salle ou en DVD et combien de nouveaux films. Chaque année, il y en a de plus en plus hein, qui nous viennent du Japon.
Au final, cette nouvelle édition s'avère à la fois érudite et accessible. Continuons cette émission avec un ouvrage qui sort chez Marest Éditeur, que je ne pouvais pas ne pas chroniquer, parce qu'il sort le jour de mon anniversaire quand même. Hein. Un cadeau qui nous est fait par donc Marest Éditeur et qui s'intitule Steven Soderbergh, volume 2, Les années numériques. Alors les auteurs, Christophe Chabert et Frédéric Mercier, nous avaient laissé avec un Soderbergh exsangue suite à l'éprouvant tournage du diptyque consacré au médecin cubain révolutionnaire le plus célèbre de tous les temps. Je veux bien sûr parler de Ernesto Che Guevara. Les deux volets de Che sont les dernières œuvres argentiques du réalisateur venu d'Atlanta. Tel que l'indique le titre de l'ouvrage, Les années numériques, nous allons être guidés dans les années numériques d'un Soderbergh toujours aussi enfantin, presque naïf, dans sa manière d'aborder le cinéma. Une approche ludique qui peut l'amener à tourner des séries B pétaradantes, comme Piégé en 2011, et des œuvres plus ardues, comme The Girlfriend Experience, mise en abîme de la vie d'une travailleuse du sexe avec une travailleuse du sexe, Sacha Gray. Ce volume 2, c'est aussi celui qui traite, après quelques grands succès comme Magic Mike, Contagion et Ma vie avec Liberace, de la retraite d'un Soderbergh dont aucun film ne sort entre 2014 et 2016. Les auteurs citent le metteur en scène qui avoue avoir été frustré et en colère contre l'industrie du cinéma, mais pas par le métier de réalisateur qu'il aime par-dessus tout. D'ailleurs, détail amusant, il revient en 2017 avec le très léger film de braquage Logan Lucky. Et avant cette retraite, courte, effectivement, il y a ce que les auteurs nomment les films laboratoires, réalisés entre 2009 et 2013. The Informant est, pour eux, le premier de ces films laboratoires. La meilleure veine du metteur en scène, qui radiographie, durant cette période, une Amérique malade, ravagée par la paranoïa, effrayée par la liberté sexuelle, incapable d'affronter un virus mortel. Mine de rien, toute l'acuité de l'auteur est là. Même à son corps défendant, comme par exemple lorsqu'il met en scène Gina Carano dans Piégé, puisqu'elle est devenue une icône du trumpisme, hein, elle avait été d'ailleurs virée de Disney+, suite à certains propos qu'elle avait tenus. À travers cette description de tous les maux qui mèneront aux USA, selon Trump, Soderbergh s'avère en fin de compte assez, presque une sorte d'oracle en fait à travers son cinéma. Et puis, les auteurs soulignent à quel point Soderbergh est un émule de Kafka, jusque dans son humour si singulier. Plus étonnant, et pourtant à la lecture de l'ouvrage ça paraît évident, le cinéma de Soderbergh entretient des liens avec celui de Chantal Akerman. Le rapprochement Chelsea Gray, Jan Dillman, je dis qu'il fallait oser, mais ça fonctionne très bien en fait dans le livre. Et puis arrive la période des films prototypes, de Ma vie avec Liberace à The Laundromat, en passant par la série The Nick, et le film à l'iPhone, Paranoia. Hein. Soderbergh semble à la fois tout maîtriser, je vous rappelle qu'il a plein de pseudos, qu'il occupe plein de postes sur ses films, hein, tout en se laissant dériver au gré des vagues, une métaphore bien sentie par les auteurs, tant l'œuvre de Soderbergh, pourtant thématiquement très cohérente, semble parfois divaguer, s'égarer pour mieux rebondir. The Laundromate, dernier opus d'une trilogie du concret, The Laundromate donc vient conclure avec ce traitement de l'affaire des Panama Papers, une lecture critique de la mondialisation amorcée par trafic puis prolongée par contagion. On ne pourrait trouver meilleure définition du cinéma de Soderbergh que celle donnée par les auteurs, lesquels, lorsqu'ils évoquent ce film, écrivent un cinéma qui cherche à se réapproprier ses outils et son langage face aux forces qui tentent de les détourner et de les dénaturer. Puis les auteurs s'attardent à décrypter la dernière partie de sa filmographie, jusqu'au récent The Insider, pas si éloigné en fait de Sexe, Mensonges et Vidéo. Et au final, cet ouvrage passionnant, donc qui s'appelle Steven Soderbergh, volume 2, Les années numériques, qui est signé Christophe Chabert et Frédéric Mercier, s'impose comme la meilleure étude consacrée à Soderbergh, hein, exigeante et accessible. Elle est un modèle en fait, de ce que devrait être un livre sur tout cinéaste. J'oserais ajouter, avec une interview en plus, ça aurait été quasiment le livre parfait. Et donc, si vous êtes comme moi, si vous êtes assez passionné par Soderbergh, qui je trouve est un des cinéastes, c'est pas du tout mon cinéaste préféré, mais je trouve que c'est paradoxalement un des cinéastes les plus intéressants en activité. Donc je vous conseille de vous précipiter sur cet ouvrage qui s'appelle Steven Soderbergh, volume 2, Les années numériques. C'est signé Christophe Chabert et Frédéric Mercier. C'est disponible chez Marest Éditeur. Et puis si vous n'avez pas non plus le premier volume, ben là, il est temps de l'acheter. Hein. Puis comme ça, vous pourrez lire tout d'un coup et vous allez passer un excellent moment.
Charlie, est-ce que tu pourrais descendre une minute? Je voudrais te présenter quelqu'un.
Oui, maman.
Charlie, voici notre nouveau voisin, Jerry Dandridge.
Écoutez Culture Prune. On va quitter les livres sur le cinéma pour parler de livres qui sont dans l'univers du cinéma. pour parler des nouveaux opus de la collection Compact Horror, avec son numéro 10, Vampire, vous avez dit Vampire, de John Skip et Craig Spector, et son numéro 11, Basket Case, d'Armando Munoz, donc deux ouvrages parus chez Faute de Frappe, deux nouvelles novélisations. Alors, on va démarrer dans l'ordre de publication de la collection, on va démarrer donc par Vampire, vous avez dit Vampire. John Skip et Craig Spector, auteurs de la novélisation de Vampire, vous avez dit Vampire, sont des auteurs chevronnés et reconnus dans la littérature de genre. Dans la collection J'ai lu Épouvante, on a pu lire du duo Décibel, au pluriel, un livre singulièrement horrifique concernant le Cri, un groupe de rock pas comme les autres. Toujours dans la collection J'ai lu Épouvante, fut publié dans le volume 2 d'Histoire de sexe et de sang, la nouvelle La foire à la viande. Le titre parle de lui-même. Craig Spector, avec David G. Shaw, a également vu sa nouvelle Les murs effondrés, publiée dans l'anthologie Révélation, toujours au pluriel, chez J'ai lu, dans la collection Ténèbres. Et enfin, Craig Spector, seul, a vu Underground, un de ses textes majeurs, publié par les éditions Bragelonne, dans l'ouvrage Le nouveau thriller sort de l'ombre. Craig Spector, également musicien, tendance métal, mais quand même plutôt punk, ne pouvait que s'entendre avec John Skip, lui aussi musicien, avec lequel il initie le mouvement splatterpunk. Alors le mouvement splatterpunk, une sorte de littérature horrifique plus graphique, compte par exemple dans ses rangs des auteurs fort recommandables comme Clive Barker et Jack Ketchum, allant jusqu'à inspirer à Joss Whedon le personnage de Spike, le vampire punk de Buffy, contre les vampires. Donc c'est vraiment deux auteurs importants dans la galaxie de la SF, la fantastique et l'horreur, aux États-Unis. Les deux hommes sont très connus aux USA, ils sont très respectés, et il leur arrive même de travailler pour le cinéma, comme lorsqu'ils écrivent le scénario de Freddy 5, l'enfant du cauchemar, de Stephen Hopkins, ou quelques scripts pour la série Creepshow. C'est donc avec un a priori positif que l'amateur éclairé aborde la lecture de cette novélisation du Vampire, vous avez dit Vampire, de Tom Holland, petit classique de la série B horrifique et crypto-gay, sorti en 1985. Un film qui a enchanté toute une génération de cinéphiles, dont votre serviteur, qui a pu le voir en salle. Eh oui, ce sont des bons souvenirs. Alors, l'histoire, vous la connaissez, les adolescents Charlie et sa petite copine Amy doivent affronter Jerry Dandridge, un vampire fort séduisant qui s'est installé en face de chez Charlie. Charlie qui vit seul avec sa mère, une mère courage. Ils seront aidés dans leur terrifiante besogne d'une vague gloire locale de la série Z horrifique. Un personnage qui respire l'amour du cinéma bis et des Mavericks du cinéma d'exploitation à la Ed Wood, un personnage près de ses sous aussi. Dès la préface, les deux auteurs expliquent que ce livre est une commande dont ils se sont acquittés à contre-cœur, seulement armés d'une version du scénario pas encore filmée. Alors, je ne sais pas si le livre a été écrit dans une atmosphère d'indolence, mais si c'est le cas, les deux bougres ont un énorme talent, maîtrisant toutes les règles de la narration, ils jouent avec la typographie, multiplient les descriptions à double, voire à triple sens, maniant un humour dévastateur et irrésistible. On peut même dire que les initiateurs du splatterpunk sont ici particulièrement sages. Cette retenue permet une description très sensible et très juste des premiers émois adolescents. Et puis, il y a ce style particulier, assez éloigné des patch-turner rompus à la littérature populaire. Ici, on est toujours à la recherche du bon mot. Je ne résiste pas à l'idée de vous citer la description d'une femme qui émeut particulièrement notre jeune adolescent. Elle était blonde aux yeux bleus et absolument ravissante. Elle avait un corps qui aurait pu provoquer des arrêts cardiaques chez des organismes unicellulaires, avec des courbes dans des endroits où les autres femmes n'avaient même pas d'endroit, moulées dans une robe qui s'y accrochait comme si sa vie en dépendait. Tout est là, sensualité et humour, les scènes horrifiques portent la même signature, soutenues par un rythme qui se traduit par un raccourcissement progressif des phrases. Enfin bref, quand John Skip et Craig Spector écrivent une commande, ça donne un livre qui en fait, à partir du même postulat que le film, nous délivre une autre vision. Celle de deux auteurs de littérature populaire comme on les aime. Vampire, vous avez dit Vampire, et donc un très bon cru de cette collection. On va maintenant passer à Armando Munoz. Armando Munoz, jeune auteur états-unien, adoubé par la légende Clive Hellraiser Barker, qui déclare à son sujet « Votre prose est magnifique, vous avez une compréhension intuitive des défis complexes de la narration dans la littérature horrifique ». Alors malgré ce fan prestigieux, l'auteur reste méconnu en France. Même ses romans Hoarder et Turkey Day, beau succès de l'autre côté de l'Atlantique, n'ont pas franchi nos frontières. C'est donc à une vraie découverte que nous convie l'éditeur Faute de Frappe avec cette novélisation de Basket Case, petit classique trash underground du génial Frank Hennen, l'auteur, sorti en France en 82 sous le titre Frères de sang au pluriel, et volet initial d'une trilogie déjantée, même si le troisième est quand même beaucoup moins bon, que le New-Yorkais enfant de la 42e rue a signé et saigné de sa caméra. Les frères siamois les plus célèbres du bis horrifique, Duane Bradley, avec sa tête de premier de la classe, et Belial, hideux et vicieux, et qui vit caché dans un panier, hein, d'où le titre Basket Case, titre qui inspirait d'ailleurs un certain groupe qui s'appelle Green Day pour le titre d'un album. Ces deux personnages prennent donc plume sous la signature d'Armando Munoz. Belial, mauvaise conscience de Duane, extension détraquée d'un cerveau malgré tout quelque peu dérangé, est plus développé dans le livre que dans le film. Même si nous suivons principalement Duane, Munoz choisit de nous incruster dans la tête du monstrueux Belial lors de nombreux instants du livre, singulièrement déroutant à l'image du 16e chapitre. Ce que souligne aussi l'auteur est l'amour profond qui lie les deux frères, et ce malgré une ambiance oppressante et horrifique. À l'image de Vampire, vous avez dit Vampire, cette novélisation est écrite dans un style plus porté sur la description que les dialogues, et on sent chez l'auteur également une grande maîtrise de la narration, un plaisir certain à jouer avec les règles de la typographie. Basket Case est donc une intéressante novélisation, sans atteindre la maîtrise de Skip et Spector. Elle arrive à captiver le lecteur, même s'il connaît le film. On attend maintenant la suite, sachant qu'Armando Munoz a également signé les novélisations de Massacre à la Saint-Valentin de Georges Mialka, de 12 nuits sanglantes nuits de Charles Isselier Jr., de Happy Birthday de Jack Lee Thompson, le haut du panier en termes de slasher, et alors de l'excellent aussi Black Christmas de Bob Clark. Donc on fait un appel du pied à Faute de Frappe Édition pour qu'il publie d'autres livres d'Armando Munoz dans la collection Compact Horreur. Nous allons passer la dernière partie de cette émission en compagnie de Melvin Z. Alors Melvin Z, vous le connaissez parce qu'il était venu dans cette émission nous parler d'un ouvrage incroyable sur le premier Mad Max. Et bien là, il revient avec un volume 2 qui s'appelle Mad Max 2, les guerriers de la route, toujours disponible chez Rififi Édition, toujours un pavé énorme de plus de 500 pages, un objet magnifique en plus d'avoir un contenu passionnant dans lequel on dissèque totalement le travail de George Miller et plus particulièrement le film Mad Max 2, bien évidemment. Ce que je vous propose tout de suite, alors même si on a une ligne un peu capricieuse hein, par moment au niveau de la qualité sonore, mais enfin on va faire avec parce que quand même on avait très envie de discuter de ce livre avec son auteur. Donc tout de suite, au sujet de Mad Max 2, les guerriers de la route, paru chez Rififi Édition, Melvin Z au micro de Culture Prohibée. Melvin Z, après le premier volume déjà paru chez Rififi Édition consacré à Mad Max et qui s'appelait Mad Max Ultraviolence dans le cinéma, partie 1, 1966-1979. Tu nous reviens avec Mad Max 2, Les Guerriers de la Route, 1979-1982, soit 4 ans pour 514 pages contre 432 pages pour 13 ans pardon dans le premier opus. Dis-moi le prochain, il va faire combien de pages, parce que c'est énorme.
Oui, alors j'ai promis à tout le monde et notamment à mon éditeur que j'essaierai de pas trop dépasser pour le troisième volume. Il devrait pas être plus gros que le second, ça c'est clair. Il devrait être un peu plus petit, je pense. Disons que sur le tome 2, j'ai eu accès à tellement d'archives et tellement de matériel que c'est parti un peu hors de proportion.
Oui, mais c'est ce qui fait l'intérêt du livre. En même temps, c'est ce côté incroyable où il y a... Enfin, ça regorge d'infos de partout. Moi, je voulais aussi t'interroger sur le fait que Ce livre, c'est aussi une œuvre totale d'un artiste complet, parce que tu es aussi le graphiste de ton propre travail. On peut voir ton travail dans les annexes. Tu es aussi l'auteur d'un documentaire qui s'appelle « Archaeologist of the Westland », que certains contributeurs, puisque le livre a été disponible via un financement participatif. Oui. C'est à la fois l'œuvre totale d'un artiste que tu es, il faut le dire, et c'est l'œuvre d'une vie aussi, parce que c'est impressionnant, ce travail qui est une somme phénoménale.
Alors, c'est gentil, merci. Alors, l'œuvre d'une vie, j'espère que j'arriverai à faire d'autres trucs maintenant que le bouquin est sorti, quand même. Mais oui, non, ça m'a pris énormément de temps. Et comme ça m'a pris énormément de temps, j'en ai profité pour faire des choses à côté. Les illustrations, notamment, j'étais particulièrement intéressé à l'idée de faire ce genre de choses. Que ça soit le plan de la raffinerie ou que ça soit comment fonctionnaient les arbalètes ou que ça soit les véhicules. Ce genre de petits trucs m'amuse énormément. J'en avais fait peu sur le premier volume. Il y en a beaucoup, beaucoup plus sur le deuxième et il y en aura un bon paquet sur le troisième. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément amusé, quoi. Et c'est notamment parce que ça a pris tellement de temps dans la fabrication que j'ai pu avoir le temps de faire. Et puis comme tu disais, c'est une œuvre totale. C'est moi aussi qui m'occupe de la mise en page, donc j'ai pas besoin d'en parler à personne, ou je fais exactement le truc comme j'ai envie ou comme je l'avais imaginé dans ma tête.
C'est pour ça que je te parlais à la fois d'un travail artistique complet, puisque c'est vrai que c'est un objet que tu maîtrises de A à Z, aussi bien dans le texte que dans le visuel. Et je te parlais aussi de l'œuvre d'une vie, parce que j'espère bien que tu nous feras d'autres choses. Déjà le troisième volume, mais c'est surtout dans le sens où ça a dû prendre... Enfin, c'est le travail de... Alors, on va pas se mentir, je pense... de plus de 10 ans, voire de plusieurs dizaines d'années, parce que pour réunir tout ça, cette somme d'informations, enfin c'est quand même assez hallucinant.
C'est tout à fait vrai. J'ai commencé au début des années 2010, de manière assez en dilettante jusqu'en 2013, quand je suis parti la première fois en Australie, et puis à partir de 2013, de manière beaucoup beaucoup plus sérieuse. Après, sur ce tome-là. Ce bouquin, il doit aussi énormément beaucoup à Adrian Bennett, le propriétaire du musée Mad Max en Australie. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé de mon côté, j'ai récupéré des milliers d'archives, des articles, des documents d'époque, des extraits de magazines, de journaux, etc. Mais des choses comme ça, genre à foison. Et puis, en même temps, en parallèle de mes recherches personnelles, j'ai pu compter sur la connaissance et les archives du musée Mad Max 2. Et Adrian Bennett, là pour le coup, c'est vraiment l'œuvre de toute sa vie. C'est probablement le plus grand spécialiste de Mad Max 2, à part les gens qui l'ont, mais même je pense même les gens qui l'ont fait n'ont pas une carte mentale aussi détaillée que Adrian peut l'avoir pour le film. Et donc j'ai pu bénéficier de toutes ces archives et puis de tout son savoir, de toutes ses connaissances dessus. Il m'a pas forcément tout donné clé en main, mais il avait une réponse à toutes mes questions. Ou de temps en temps, il me disait genre, ah, mais est-ce que t'as bien réfléchi à ça, est-ce que t'as pas remarqué ça, et donc pendant des années, on a discuté des milliers d'heures ensemble. Et donc ce bouquin là, c'est la synthèse de mon travail, du travail qu'il a fait, et puis du travail de d'autres gens. Et donc j'essayais de faire le truc le plus complet possible comme je pouvais le faire, quoi.
Alors, ce livre, je rappelle, hein, c'est Mad Max 2, Les Guerriers de la Route, qui est donc disponible chez Rififi Édition. Et dans le livre, alors le livre débute en 1979, on apprend tout de suite, parce que le livre suit les pas de George Miller, hein, l'un des hommes, l'homme le plus important derrière cette saga, mais il n'est pas tout seul. Et ce qui apparaît tout de suite dans le livre, c'est cette volonté qu'avait George Miller de vouloir conquérir le marché américain tout de suite. Tu nous parles d'un scénario qui met l'horreur, sexe, occultisme. Il y a aussi l'idée du doublage US de Mad Max. En fait, George Miller, il a... il a des envies, alors peut-être pas de rêve américain, mais il a clairement des envies, l'envie des États-Unis. Et d'ailleurs, ça va pas forcément se passer comme il l'a prévu.
Alors, oui, c'est-à-dire que durant les années 70, c'est l'époque de ce qu'on appelle le renouveau du cinéma australien, la nouvelle vague australienne. Et on va dire, l'industrie était, on va dire, divisée entre deux pôles principaux. Les réalisateurs qui faisaient beaucoup de films d'époque et qui revisitaient l'histoire de l'Australie d'un point de vue mythologique, donc genre par exemple Peter Weir avec Picnic en Hanging Rock ou même Waking Fright, hein, qui est un film pas complètement australien, Sunday Too Far Away, etc. Il y a pas mal d'exemples. Et puis de l'autre côté, il y avait chez les plus jeunes, les étudiants, des volontés de faire du cinéma beaucoup plus radical, beaucoup plus esthétique. Et George Miller et Byron Kennedy, son producteur, se situaient un petit peu entre les deux. Je veux dire, pas très loin de gens comme Brian Trenchard-Smith ou comme Sandy Arbuck, qui a réalisé le film de Biker Stone. Eux, ils imaginaient, ils espéraient, faire du cinéma qui soit, entre guillemets, à l'américaine. Des séries B, des films d'action, des films de genre. Et ça, c'était pas très très bien vu à l'époque. Les gens avaient l'impression que le cinéma australien était pas capable de pouvoir rivaliser avec les Américains sur leur propre terrain. Et c'était l'ambition de Miller et de Kennedy. Et avec le succès de Mad Max 1, ça va leur permettre de pouvoir partir aux États-Unis, rencontrer Spielberg, George Lucas, etc., découvrir Joseph Campbell, le mythologue qui a écrit le bouquin sur le héros mille et un visages, qui va bouleverser George Miller et qui va y consacrer tout le reste de sa vie. Donc leur idée, c'était de faire un cinéma entre guillemets à l'américaine. Et puis rapidement, après la sortie de Mad Max 2, George Miller partira aux États-Unis pour réaliser un des épisodes de la quatrième dimension. Et puis ensuite, les sorcières d'Eastwick courant des années 80. Mais en parallèle, il va pas faire comme Peter Weir ou Bruce Beresford ou d'autres réalisateurs ou techniciens qui vont partir aux États-Unis. Lui, il va rester en Australie pour développer son propre studio. Et c'est ce qui est la base, le centre de l'histoire du troisième tome.
D'ailleurs, alors, c'est assez drôle, tu racontes tout cela, c'est-à-dire l'arrivée aux États-Unis, la rencontre avec Terry Hayes aussi, qui est le novélisateur du Mad Max 1, du premier opus, et aussi ce côté formateur que ça aura pour Miller, parce qu'il va aller à UCLA, il va essayer de progresser dans plein de domaines. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans ton livre, on découvre que Terry Hayes, qui est très surpris de l'inexpérience presque de George Miller en termes d'écriture de scénario. Enfin, c'est plus un cinéaste en devenir que déjà quelqu'un qui a tout clé en main, quoi. Il va falloir qu'il bosse encore.
Ah oui, alors tout à fait. Quand ils font le premier Mad Max, Kennedy Miller, c'est Byron Kennedy et George Miller. C'est vraiment un film bicéphale, fait par ces deux personnages. Quand Terry Hayes va arriver, Kennedy Miller va devenir une entité à trois têtes, avec l'arrivée donc de ce jeune journaliste, Terry Hayes. Et puis pour Mad Max 3, ça va devenir une opération à quatre, puisqu'il y aura l'arrivée d'un autre metteur en scène de théâtre qui s'appelle George Ogilvy. Mais pour en revenir à Terry Hayes, lui, c'était un jeune journaliste qui avait énormément de succès, qui était extrêmement brillant et qui a décidé de mettre sa carrière sur pause uniquement parce qu'il a eu confiance dans George Miller. Que le film, le premier Mad Max, a eu énormément de succès et qui s'est dit, mais là, il y a probablement quelque chose à tenter. Il n'imaginait pas qu'ils étaient encore en train de découvrir le métier. Et surtout, George Miller avait énormément de soucis à cette époque-là avec la direction d'acteur. C'est quelque chose qu'il ne maîtrisait pas et qui l'effrayait énormément. Et c'est ce qu'il va essayer de travailler. Déjà, quand ils vont partir à UCLA, au tout début des années 80, mais qui vont travailler beaucoup plus sérieusement dans le sillage de Mad Max 2 quand ils vont lancer les productions suivantes.
vous écoutez Melvin Z au micro de Culture Prohibée.
En 1980, retour en Australie pour la bande, déclaration de Miller qui semble pas avoir beaucoup apprécié Hollywood. Quel est ton sentiment, toi, sur cet aller-retour en fait que fait Miller à l'époque et puis ses deux compères?
Ah bah ça a permis de sceller leur union avec la Warner Bros d'une certaine manière, parce que c'est ce qu'ils vont travailler ensemble pendant quelques années, mais surtout c'est ce que ça va apporter à George Miller. Ce qui va vraiment tout changer, c'est la découverte de Joseph Campbell. Donc dans mon bouquin, je raconte qu'il y a plusieurs versions de cette rencontre suivant qui l'évoque, mais le fait est que George Miller et Terry Hayes tombent sur les théories de Campbell, et que ça va offrir une réponse à une question que George Miller se posait, qui était: comment ça se fait qu'un film comme Mad Max, qui pensait être une petite série B intrinsèquement australienne, a pu rencontrer un tel succès à travers le monde. Et la réponse que Miller va trouver dans les théories de Joseph Campbell vont leur donner l'idée à Miller et Hayes de retourner sur Mad Max et d'utiliser le personnage qu'ils avaient créé pour essayer d'en faire une histoire mythologique. Donc c'est de ce premier voyage aux États-Unis, c'est vraiment l'élément le plus important à noter. Quand il partira quelques années plus tard pour tourner The Twilight Zone, il va rencontrer les équipes d'Amblin, les équipes de Spielberg, et il ramènera plus tard, genre un an plus tard, une partie de cette équipe pour bosser sur le troisième Mad Max, notamment Ed Vero, qui est le storyboarder de Spielberg pour E.T., pour le premier rencontre du le premier Indiana Jones, etc. Et puis, mais très rapidement, l'ambition de George Miller va être de créer un studio, un énorme studio en Australie, plutôt que de quitter l'Australie pour aller faire carrière aux États-Unis.
Alors, dans ce livre, donc Mad Max 2, les guerriers de la route, mon cher Melvin Z, tu nous expliques aussi que y a un autre concept. On parlait à l'instant du monomythe, mais tu expliques aussi qu'il y a un autre concept qui va traverser l'intellect de Miller et qui va le passionner, c'est celui de l'inconscient collectif créé par Carl Jung. Tu nous dis que ça irrigue son œuvre. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est assez étonnant. Autant le monomythe, c'est vrai que c'est quelque chose qui vient rapidement, Joseph Campbell, autant le côté inconscient collectif qui paraît évident une fois qu'on a lu ton livre, mais c'est pas forcément ce qui nous viendrait à l'esprit de suite quand on parle de Miller.
Jung et Campbell étaient proches. George Miller va retourner vers Jung, qu'il a étudié quand il était étudiant, et qu'il l'avait relativement fasciné, mais qu'il avait juste surpassé. Il va y retourner pour le second Mad Max, hein, quand il va découvrir Joseph Campbell. Même s'il va y consacrer toute sa carrière jusqu'à ses derniers films, hein, le 3000 ans à t'attendre ou Furiosa, c'est vraiment encore dans cette continuité-là. C'est en 1996, il va faire la principale chaîne australienne, ABC, va commander à George Miller un film sur l'histoire du cinéma australien, et qui s'appelle 40 000 ans de rêves blancs, je crois, quelque chose comme ça. Et George Miller va revenir abondamment sur cette idée du cinéma comme la continuité de la façon dont les gens se racontent des mythologies en tout temps et en tout lieu. Et il note que dans la psyché des gens, dans l'inconscient collectif, c'est-à-dire en chacun de nous, on porte des idées, des archétypes, des histoires universelles, et on est capable instinctivement de reconnaître des figures ou des archétypes particuliers. Et ça, il va le traiter avec la saga Mad Max, mais il va aussi dans les années 80 produire des séries télévisées, donc co-produire, co-réaliser, co-écrire des séries télévisées, où ils vont attaquer ces questions mythologiques via les histoires, comment dire, l'histoire de l'Australie. Donc que ce soit son histoire politique, son histoire sportive, son histoire militaire, il va, comment dire, essayer de voir qu'est-ce que le pays, comment le pays peut se raconter, se créer une mythologie alors que c'est un pays qui est extrêmement jeune. Donc il ne va pas forcément étudier Jung d'une manière scientifique, il va surtout y voir des réponses à des questions qui se posaient sur les raisons pour lesquelles le cinéma a cette vocation universelle.
Alors, tu écris dans le livre que dès la pré-production du film, il y a une grande ambition chez Miller qui veut un scénario qui n'est pas au service de l'action, mais qui est une action au service d'un grand dessin. Va arriver cette idée de cette guerre qui embraserait tous les pays producteurs de pétrole. Est-ce que tu penses que Miller et ses acolytes à l'époque ils sont en pleine conscience de complètement révolutionner le cinéma, parce qu'il y a clairement un avant et un après ce film. Plus jamais on ne représentera un monde post-nuke sans faire référence à Mad Max 2. Enfin, ce film marque très clairement et très clairement une date dans l'histoire du cinéma.
Oui, alors que techniquement il invente pas grand-chose, parce que tout ce qu'on voit dans Mad Max 2, on l'aura déjà vu dans des films précédents, les années précédentes. Ce que fait Mad Max 2, c'est, j'ai l'impression qu'il utilise les figures qui avaient été définies par le cinéma post-apocalyptique des deux décennies précédentes, et qu'il va traiter ça comme si c'était déjà des récits mythologiques bien installés, en réutilisant certaines figures comme des archétypes. C'est-à-dire qu'il va reprendre l'histoire de New York ne répond plus, il va reprendre des choses de Ravagers, il va reprendre le décor de A Boys and His Dog, il va se servir dans quelque chose qui est déjà connu chez le spectateur pour recréer un nouveau spectacle. Et après, est-ce qu'ils avaient l'ambition de faire un tel carton? C'est délicat de répondre. Clairement, Byron Kennedy était hyper ambitieux. Je pense qu'ils espéraient avoir un box-office beaucoup plus réussi. Ils espéraient faire plus d'argent à la sortie du film. Et je pense pas qu'ils imaginaient que le film aurait une telle influence culturelle. Donc je pense que c'est un peu une balance entre les deux, quoi. Je pense que personne pouvait imaginer à quel point le film allait servir de maître étalon à toutes les poursuites automobiles et au cinéma post-apo pour des années, jusqu'à ce que, moi j'ai l'habitude de dire, probablement jusqu'à La Route de John Hillcoat, qui pour moi ringardise un peu le côté post-apo flamboyant, cuir, punk de Mad Max 2, avec des maraudeurs beaucoup plus effrayants, en les présentant juste comme des rednecks avec des chemises à carreaux. Mais oui, non, c'est ils ont, comment dire, après ils ont essayé de faire au mieux et ils ont eu beaucoup de chance, beaucoup d'inspiration et des planètes qui se sont alignées qui ont fait que Mad Max 2 est un succès particulier, quoi.
Écoutez Melvin Z, auteur de Mad Max 2 Les Guerriers de la Route, disponible chez Rififi Édition, au micro de Culture Prohibée. C'est aussi le choix des bons, comment dire,
des bons partenaires, parce qu'il va, il y a comment dire, Graham Grace Walker qui est directeur artistique. Il va y avoir aussi une, alors ils ont du flair aussi quand ils ont, quand au niveau du montage, ils engagent un trio pour suppléer Mike Sheergwin, j'arrive pas bien à le dire. Et quand ils engagent Michael Balson, David Steven et Tim Welburn, enfin, il y a quand même. Parce que, par exemple, chez Hitchcock, on a toujours dit que Hitchcock, bon, bah voilà, c'est un génie, mais en même temps, il savait bien s'entourer. Bah oui, mais c'est un génie quand même. Savoir s'entourer, c'est faire preuve de génie. Et là, lui, en fait, Miller, c'est un génie dans le sens où il arrive à s'entourer. D'autant plus, tu le dis, dans un pays qui a une production plutôt, on appelle ça exploitation, mais dont ton livre retrace l'histoire aussi d'ailleurs, hein, de tout un pan de la exploitation, mais c'est un pays où cette production, elle est plutôt considérée comme une production qui fait du cinéma populaire, qui fait... alors qu'en fait, avec Mad Max 2, arrive un cinéma qui est à la fois un cinéma populaire, mais aussi un cinéma un peu plus profond, entre guillemets, parce qu'il tape dans des sujets qui sont toujours d'actualité aujourd'hui.
Ah oui, oui, après... C'est les deux. C'est-à-dire qu'ils ont fait une série de choix extrêmement pertinents. L'un de ces choix, par exemple, que j'évoque dans le livre, c'est d'être parti tourner à Broken Hill et d'utiliser les gens de la ville comme figurants pour peupler le Westland de Mad Max 2, et qui offre une patine, une gueule vraiment particulière au film. Et puis à côté de ça, ils ont eu énormément de chance, comme sur le premier film. C'est-à-dire que ils vont tourner des cascades, les cascades vont rater, mais le résultat à l'écran va être encore plus prodigieux que s'ils les avaient réussi. Et puis ils ont tué personne. Et puis la cascade de Dennis Williams qui renverse le camion à la fin du film est carrément prodigieuse. Et puis Mel Gibson, il a probablement jamais été aussi beau que dans ce film-là. Donc il y a énormément de chance, et puis il y a énormément de talent. Le talent peut forcer la chance, mais jusqu'à un certain point, parce qu'ils ont vraiment eu, beaucoup de chance. Après, cette question de collaboration d'œuvres qui a plusieurs auteurs, et ça, c'est quelque chose qui va vraiment devenir leur moto à la sortie de Mad Max 2. Quand ils vont commencer, quand George Miller, Byron Kennedy et Terry Hayes vont commencer à lancer la production de séries télévisées, ils vont mettre en place un studio collaboratif qui est une expérience quasi unique dans l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que des réalisateurs vont bosser ensemble avec des acteurs, avec des scénaristes, où tout le monde va travailler ensemble pour remettre en question le travail de chacun. Et George Miller l'explique, il dit... Dans l'industrie, on a souvent des gens qui se rencontrent, qui travaillent ensemble, mais on voit jamais, un réalisateur ne voit jamais un autre réalisateur au travail. Donc ça a été extrêmement intéressant pour eux de se confronter les uns les autres en tant que réalisateurs. Donc il y aura Carl Schultz, Chris Noonan qui réalisera Babe, Philip Noyce qui réalisera Calme Blanc, etc. Ils seront un certain nombre. Et donc, mais il y a déjà sur Mad Max 2 le début et les premières velléités de faire une œuvre très collaborative et qui est un changement à 180 degrés de l'ambiance qu'il y avait sur le premier Mad Max où George Miller était totalement inexpérimenté avec juste une petite équipe qui travaillait avec lui et une petite équipe qui n'avait aucune confiance dans leur réalisateur et qui était persuadée qu'ils étaient en train de faire une merde qui sortirait jamais sur les écrans. Quand Mad Max 2 est en production, les gens ont vu le succès de Mad Max 1 et George Miller est déjà quelqu'un c'est plus le même George Miller que quelques années auparavant quand ils font le premier film. Donc c'était vraiment, il y a une évolution vers un cinéma de plus en plus, vers une démarche de plus en plus collaborative qui finira par s'étioler et puis disparaître au début des années 90, après la sortie de Babe, milieu 90, et puis qui reviendra d'une manière un peu différente avec la pré-production de Fury Road un peu après. Mais ça sera probablement le sujet d'un futur tome 4 d'ici, je sais pas, une dizaine d'années.
Hein. Ça, on fait confiance. Au rayon des choses plus anecdotiques qu'on apprend dans le livre, que moi j'apprends, parce que je m'en rappelais absolument pas, en fait. Déjà, à l'époque, on a attendu avant de le voir au cinéma, et c'était la... Parce que les deux sont sortis à la suite, moi je me rappelle, les deux, c'était au moment où les socialistes sont arrivés au pouvoir, et les deux sont sortis à la suite la même année. Mais c'était que c'est le truc que la novélisation française de Mad Max 2 est signée Philippe Manœuvre. C'est assez drôle quand même.
Oui. Alors c'est une incongruité parce que il y a une novélisation australienne qui est écrite par j'ai plus le truc en tête, Karl Rueux, je crois un nom comme ça, Karl Ruen, c'est ça. Mais la France a décidé de sortir sa propre novélisation écrite par Philippe Manœuvre. Alors qu'est-ce que ça vaut ? Le livre est sympa parce qu'il y a de belles photos dedans. C'est un j'ai lu avec quelques jolis clichés en noir et blanc. Voilà ce que je peux en dire de positif dessus. Sinon, le texte est plus anecdotique. C'est un peu comme si Philippe Manœuvre racontait le film à ses copains un samedi soir. C'est un intérêt limité. Après, même la novélisation des deux premiers Mad Max, puisque le troisième sera novélisé aussi, les novélisations ont un intérêt vraiment modeste.
J'ai envie de te poser une dernière question. Alors, je rappelle, Melvin Z, le titre de ton livre qui est disponible chez Rififi Édition, qui est donc Mad Max 2, Les Guerriers de la Route. Alors, on a compris que c'était le deuxième tome et qu'il y en aurait. Tant qu'il y aura des Mad Max, il y aura un tome pour chaque Mad Max signé Melvin Z. Mais allez, soyons fous, je te pose une question qui va peut-être appeler une réponse un peu plus longue, mais c'est pas grave. Selon toi, c'est quoi la patte George Miller? Parce que indéniablement, il y a une patte George Miller.
Ah, qu'est-ce qui ferait qu'on reconnaît un film de George Miller? Quel est l'élément commun entre Lorenzo, le premier Mad Max, ou Happy Feet? C'est assez compliqué. Il y a une évidence, c'est la persistance du héros, le fait que Max, Babe, les petits pingouins de d'Happy Feet ou le père Odon de Lorenzo sont des figures, ou en tout cas sont perçus par Miller comme des figures héroïques classiques. Après, je vois des choses qui se ressemblent. Quand on voit par exemple Happy Feet et qu'on voit Mad Max Fury Road ou Furiosa, on voit des choses qui... Il y a une ambiance que je trouve similaire. D'un côté, on est dans un Westland désertique, de désert de sable. De l'autre, on est dans un Westland désertique, de désert de glace. Mais les figures, les archétypes, les personnages, il y a le Immortan Joe dans... Il y a une figure qui ressemble à Immortan Joe dans Happy Feet, quoi. Donc, on pourrait aussi dire les scènes d'action, mais je pense que ça serait limiter Miller à un aspect de sa filmographie, parce que 3000 ans à t'attendre, Mad Max 3 ou Babe 2 sont des films qui sont pas des films de poursuite ou des films d'action, même si dans Babe 2 il y a quelques poursuites, quoi. Donc moi je dirais c'est cette façon de prendre un sujet et d'essayer d'en faire une histoire mythologique avec des archétypes et qui soit à la fois une petite histoire avec l'histoire des personnages, mais une grande histoire à l'échelle de l'humanité.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et Radio Graphite, graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, une émission réalisée avec le soutien de Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Thank you.